Boulevard 102.1.
On en jase, Boulevard 102.1. On s'apprête à faire une chronique que t'adores faire, Pascal CV, je le sais, c'est les souhaits à nos politiciens pour 2026.
Ouais, ça, j'adore ça. Parce qu'on a comme un petit pas de recul. En même temps, on n'a pas toute l'information.
Ben non.
Fait que nous, on peut le faire. Mais quand on le fait avec des gens qui ont un peu plus d'informations, parce qu'ils ont eu un pied dedans, puis c'est le cas de le dire, ben moi, je trouve ça toujours le fun de voir qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux politiciens. J'ose croire qu'il y en a certains qui écoutent.
J'ose le croire. Moi, bon, je te dirais qu'on est pas mal écoutés parce que j'en reçois des textos, moi, d'attachés de presse qui disent « Hey, t'as dit ça? Pourquoi? » Puis là, je dis « Ben, pour ça! »
Ça, c'est bizarre.
Ah non, j'aime ça. Ils font leur job. Ouais. Je serais pareil.
OK.
Je te le dis. 418-971-102, c'est pas mon numéro de cellulaire, mais c'est le numéro pour nous rejoindre en onde. Vous pourrez faire vos souhaits, vous aussi, chers auditeurs. BLVD.fm, c'est la web radio et nos meilleurs moments qui se retrouvent là. BLVD-102, c'est notre application sur App Store, Google Play Store. Twitch.tv/BLVD/FM. Ça, c'est pour venir voir nos belles faces en studio. Et les haut-parleurs intelligents Pascal CV, on dit quoi?
BLVD-102.
Yes, sir. C'est toutes des façons de nous écouter. Et surtout durant le temps des fêtes, lorsque vous allez voyager. Lambert Drainville, s'il y a bien quelqu'un qui a besoin de réconfort pour le début de l'année 2026, puis j'ai l'impression de me répéter de ce que j'avais dit en début 2025, c'est François Legault, parce que le départ de Christian Dubé hier lui fait mal.
Ouais, ça fait très mal. Ça fait très mal. Ça en dit long aussi, le fait qu'il quitte à ce moment-ci. C'est dans une perspective où il aurait voulu quitter peut-être d'une façon plus noble, de prendre le temps de parler à ses collègues, au premier ministre. Il aurait pu faire ça durant le temps des fêtes, puis préparer sa sortie après les fêtes. Le fait qu'il quitte immédiatement avant, ça en dit long sur à quel point il se sent trahi par le premier ministre, qui depuis des mois répète et répète qu'il ne reculera pas et qu'il était à 100% derrière son ministre et qu'il ne ferait pas ce que Gaétan Barrette s'est fait faire par Philippe Couillard. Ce qu'on en comprend, là, c'est que M. Dubé, d'ailleurs, il a sa part de responsabilité dans ce qui est arrivé, évidemment. Oui. D'abord et avant tout, en déposant une loi qui était mal ficelée, qui a été adoptée en urgence, en plein milieu de la session, par Bâillon. Et on a découvert au fil du temps qu'il y avait plusieurs angles morts à sa loi et que ça impactait le salaire de façon considérable de plusieurs médecins, sans parler, évidemment, des mesures de surveillance qui avaient été mises dans ça et d'un paquet d'autres affaires. Donc, sa part de responsabilité à M. Dubé dans tout ça, il ne faut pas l'oublier, c'est celle-là, elle lui revient. Mais du moment que le premier ministre a décidé qu'il était de dire, en tout cas, qu'il était à 100% derrière lui, de mettre tous ses œufs dans le même panier, au prix, d'ailleurs, de perdre son ministre des Services sociaux, qui, lui, n'était pas d'accord, eh bien, quand tu as pris cette décision-là, il faut que tu ailles jusqu'au bout. Parce que là, il se retrouve aujourd'hui à avoir perdu sur toute la ligne. On entend qu'à l'intérieur du caucus, il y avait des gens, évidemment, qui ne comprenaient pas la loi. C'était un gros, gros enjeu. Là. Leur stratégie de communication dans ce dossier-là a été absolument catastrophique, au point où on s'en est déjà parlé, le ministre répondait des webinaires en période de questions. Ça va mal quand il faut que tu parles de webinaire.
Un webinaire, Pascal. Hey, mes collègues, allez écouter le webinaire.
Écoutez le webinaire. Et donc, il se retrouve aujourd'hui à avoir mis ses œufs dans le panier de son ministre, alors qu'il y a plusieurs de ses élus à l'intérieur du caucus. Carman en était un, mais plusieurs autres disaient « ça va trop loin ». Il a dit « regardez, M. Dubé a évidemment beaucoup de tirant d'eau à l'intérieur de ce caucus-là. » Et donc, il s'est rangé derrière lui. Mais là, la loi n'était pas claire. Les députés, ça faisait parler par leurs commettants dans leur circonscription comme quoi les gens étaient inquiets. La panique a pris le caucus et la pression est devenue très, très grande sur François Legault. Ce qu'il signe une entente et qu'il mette le couvercle sur cette marmite-là. Mais du moment que lui avait mis tous ses œufs sur Christian Dubé, ben, il n'y avait aucune situation où il sortait gagnant de tout ça. Parce que là, il fait plaisir certainement à certains de ses élus qui étaient très, très inquiets en reculant sur l'essentiel de la loi 2. Mais là, il se retrouve dans une situation où il a perdu Lionel Carman. Là, il perd son ministre le plus apprécié des Québécois en Christian Dubé. Il écoutait les différentes tribunes sur LCN, Radio-Canada. Les gens sont très déçus de l'avoir quitté. Tu lis les commentaires sur sa publication Facebook. Les gens sont très déçus de l'avoir quitté. Alors moi, dans mes appels ce matin, ce que je ressentais, c'est que oui, Christian Dubé était devenu très intransigeant dans les derniers mois. Il y a des gens qui me disaient, M. Dubé a toujours été très ouvert à discuter, a toujours été vraiment fidèle à l'image qu'on avait vue publiquement, mais dans les derniers mois, il s'est braqué. On m'a dit, c'est Christian, il était devenu Christian les bras croisés. Puis c'était « my way or no way ». Du moment que tu choisis « his way », puis que tu choisis Christian Dubé, eh bien là, faut que tu ailles jusqu'au bout. Et malheureusement, il lui a fait faux bond à la dernière minute. Et on se met dans ses souliers. C'est certain que ça doit être absolument dévastateur de s'être battu aussi longtemps, d'avoir été aussi certain qu'il aurait l'appui de son chef jusqu'à la dernière seconde et finalement de se faire faux bond. Alors, pour M. Legault, politiquement, si à l'intérieur de son caucus, il vient, encore une fois, calmer une certaine grogne envers cette loi-là, il s'est créé un problème qui est d'autant plus grand que là, il perd une pièce maîtresse de son gouvernement et il amorcera l'année 2026, alors que plusieurs personnes au sein de son équipe se demandent qu'est-ce qu'il va faire. Et présentement, là, les députés, il y en a plusieurs, je vous le garantis, il y en a plusieurs qui se retiennent de prendre la parole pour lui demander de quitter ou pour l'inciter à aller prendre une marche dans le bois. Et là, tout le monde se regarde. Tout le monde sait qu'il y en a plusieurs qui pensent la même chose. Et là, c'est une question de... Tu sais, c'est un peu le jeu du chicken.
C'est une question de qui va l'assumer, là?
Qui va le dire en premier? Qui est-ce qui va se lever en premier? Puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup des mécontents qui, disons, sont des députés de banquette arrière ou des députés simplement qui sont pas au Conseil des ministres. Et ces gens-là se demandent quand est-ce que les seniors, quand est-ce que les élus qui ont plus d'expérience vont, eux, en arriver à l'évidence qu'à un moment donné, ça peut pas continuer comme ça. Et le plus gros problème du gouvernement de la CAQ présentement, au-delà de toutes les stratégies qu'ils ont mis en place dans les derniers mois pour remonter dans les sondages, c'est que François Legault, les gens ne l'écoutent plus. Et là, ils viennent de mettre dehors son favori du public. Alors, c'est certain que ça ne l'aidera pas personnellement à retrouver la sympathie des gens. Qu'est-ce qu'on fait en allant de l'avant? Moi, j'ai ma petite idée là-dessus. Il y a beaucoup de gens au sein du caucus de la CAQ qui ont leur petite idée là-dessus. Et maintenant, c'est entre les mains du premier ministre de décider qu'est-ce qu'il veut faire avec ça. Et s'il veut prendre le risque qu'en 2026, possiblement le bébé qu'il a lui-même créé il y a plusieurs années, mais qu'il l'amène dans sa tombe.
Ben oui, c'est ça. Il y a un risque. Puis, je faisais rire de moi. Je me demande si la première personne qui a ri de moi, c'est pas Yannick. Là. Justement, ce serait son genre. Mais j'ai un vague souvenir d'avoir commencé à parler de ça il y a au moins un an, deux ans, en disant où sont les poulains de François Legault. Il y en a plein du talent politique dans sa formation, mais on dirait qu'il ne mettait pas de l'avant. Puis sinon, ben, il écoulait un peu. Lambert, quand on a reçu le premier ministre mercredi, j'ai osé y poser la question. Je savais que ça allait le déranger, mais quand même, tu sais, on veut savoir un peu comment il a préparé sa relève. Et s'il l'a préparé. Bon, d'abord, il n'a pas l'intention de partir. Deuxièmement, il ne va pas nommer des noms parce que ce ne serait pas bon pour lui et les siens, là, ça c'est sûr. Mais troisièmement, il n'a pas répondu point. Il a l'air à dire que tout le monde a du talent puis c'est beau, la pérennité est assurée. Mais ça semble être un discours de politicien. Là.
Mais son problème, c'est que s'il se retrouve le lendemain de l'élection 2026 avec trois députés, là, il n'y a pas le statut de parti officiel. Il choisira qui veut à ce moment-là pour le remplacer. Il y a de fortes chances qu'il soit trop tard.
En effet.
C'est pour ça que je dis, là, c'est plus une question de quel sera le legs de François Legault. Et François Legault, c'est un battant. Il bat jusqu'à la fin. On le comprend, tout ça. Là. Mais tu as créé un véhicule politique que, j'ose croire, tu souhaites voir perdurer pour des années et des années et des années à venir. Et c'est ça qui est dans la balance présentement. C'est pas la réputation de M. Legault, simplement. C'est pas simplement son legs politique. C'est pas simplement l'image qu'on a de lui d'un battant ou pas. C'est est-ce que le véhicule qu'il a créé, il veut le voir survivre à long terme. Et là où moi j'en suis, et là où plusieurs personnes en sont, c'est que nécessairement, la perpétuité de ce véhicule politique-là après les élections de 2026 passe par quelqu'un d'autre comme chef. Et la question, comme vous la soulevez si bien, c'est qui est ce quelqu'un d'autre? Mais bien honnêtement, au point où on en est, ce serait le bonhomme carnaval qui serait là en 2026 que je ne sais pas si ça pourrait être.
Y en a-tu qui veulent dans le parti? Y en a-tu qui voudraient tassez-vous, monsieur, de ce que t'entends là, dans les brancards. Tassez, monsieur Legault, puis dire non, non, on va sauver la coalition, là, on va se resserrer en équipe. Moi j'irai au leadership de la CAQ.
Le problème qu'il y a, c'est que la majorité des gens qui sont identifiés comme étant le possible remplaçant sont également dans l'équipe des très, très fidèles. Mm-hmm. Tu sais, quand on parle de Simon Jolin-Barrette, par exemple,
c'est bon,
si on en nomme un à l'intérieur du parti, c'est souvent lui qu'on nomme comme le dauphin à François Legault. On l'a vu quand ils ont déposé le projet de loi de la Constitution, il avait vraiment l'air d'un dauphin en attente.
Mais il va falloir qu'il avale également une petite pilule de charisme, par exemple, pour se faire élire là, auprès des électeurs. C'est pas celui qui a plus de charisme.
Je suis pas certain de ça.
Moi, je suis encore là. Mais je suis prêt à débattre.
Je regarde Mark Carney, là, présentement. Je suis pas sûr que c'est notre plus fringant et notre plus pow-wow.
Plus de charisme que Simon Jolin Barrette. Je te dis, faudrait que je l'aide vers moi pendant une demi-heure, j'analyserais, mais moi...
Salut Lambert. Salut Lambert, c'est le bonhomme carnaval.
Ah non, mais toi, tu pourrais dire... Oui.
Je veux juste te dire que ça m'intéresse pas le poste à la CAQ. D'accord?
Je peux comprendre. Je peux comprendre, bonhomme.
Par contre, tu peux venir à mon carnaval. Hein. Ça commence toujours là, aux alentours de la troisième fin de semaine du mois de janvier. Je sais que t'aimes la ville de Québec, Lambert. Tu viendras au carnaval de Québec. D'accord?
C'est sûr. Je vais essayer de te convaincre de faire le saut en politique. Ce sera un apport considérable
Dans pas long, Jeff,
tu vas te faire... voir au château de glace, OK?
Tu vas te faire accuser de surpassion d'identité dans pas long.
Ouais, fait qu'écoute, c'est...
Ben, bonhomme a peut-être plus de charisme que Simon Jolin Barrette, finalement.
Ben oui, c'est pas une question.
OK, arrête 2026,
tu veux-tu qu'on rentre là-dedans?
Oui, parce que sinon, je vais trop imiter le bonhomme carnaval, puis là, je vais perdre le fil. 2026, les souhaits pour chacun des partis. Fort simple, la CAQ, on leur souhaite un nouveau chef. As-tu de l'allure, ça?
Ben oui, on leur souhaite un nouveau chef. On leur souhaite un nouveau chef à eux. On leur souhaite un nouveau chef au Parti libéral aussi.
Oui.
Un nouveau chef au Parti libéral. On leur souhaite quelqu'un qui est vierge de tout rapprochement ou connexion ou lien avec quelconque forme d'organisateur libéral un peu louche, de financement qui manque d'éthique. On leur souhaite quelqu'un qui va être capable de reconnecter ce parti-là avec l'électorat francophone. Mm-hmm. C'est leur plus gros défi. Ils ont énormément de difficultés depuis plusieurs années, alors qu'à une certaine époque, le Parti libéral était très fort auprès de l'électorat francophone quand on remonte à Bourassa, quand on remonte même à Charest, où qui avait beaucoup moins de difficultés que Pablo en a eu à connecter avec l'électorat francophone. Sinon, ils sont destinés à être confinés à l'île de Montréal, probablement même l'ouest de l'île de Montréal. Maintenant, chef, pas chef, le recul que ce parti-là a pris en seulement 6 mois de Pablo Rodriguez est gigantesque.
Ah oui.
Et le nombre de pots cassés d'un point de vue réputationnel pour ce parti-là, au niveau éthique, au niveau de leur méthode de financement, c'est ce qui leur fait le plus mal. Et alors qu'à un certain point, au cours des derniers mois, avec l'arrivée de Pablo, on se disait, bon, ben, on va retrouver une course à deux en 2026. La fameuse confrontation Parti québécois-Parti libéral, on dirait qu'en ce moment-ci, là, je vois mal comment le Parti libéral peut aspirer à être plus que l'opposition officielle aux prochaines élections, malgré le fait que le premier ministre, dans sa tournée d'entrevue des derniers jours, et j'étais très surpris de l'entendre s'avancer aussi loin, ben lui, il pense que ça va jouer entre la CAQ et le Parti libéral aux prochaines élections.
Ouais, là, le PQ descendra pas tant que ça, là.
Ben on verra, hein? On verra. C'est très, très long, une année politique. Le Parti québécois, écoute, ils sont au haut des sondages depuis tellement longtemps. C'est comme s'ils réussissent à s'auto-pleure de bananiser constamment, alors qu'ils sont dans une situation où ils pourraient juste être...
Es-tu en train de dire que vacuité intellectuelle est pilée moi-même sur une pleure de banane?
Ce que je te dis, c'est que leur projet principal, c'est de faire du Québec un pays. OK? Leur projet principal, c'est de rassembler le plus de Québécois possible autour de leur cause de faire du Québec d'un pays. Et présentement, Paul Saint-Pierre Plamondon est incapable de rassembler ne serait-ce que les gens qui sont supposés déjà être de son bord. Qu'on regarde le Bloc québécois, tu sais, pas capable de s'entendre avec le Bloc, des petites chicanes par-ci par-là, les souverainistes chez Québec solidaire, pas capable de s'entendre, puis c'est vrai des deux côtés, là. Et les artistes du milieu de la culture, qui sont des alliés de toujours pour le PQ. Alors là, Si tu n'es pas capable de rallier les gens qui sont déjà supposés être favorables à ta cause de prime abord, ben tu as un problème. Alors, au Parti québécois, ce que je leur souhaite, c'est de la hauteur. Et je vise plus particulièrement Paul Saint-Pierre Plamondon parce que je trouve que le reste de son équipe est très, très, très fiable. Tu regardes Alex Boissonneau, on dirait qu'il a toujours fait ça. Ça fait quelques mois seulement qu'il est député. Super à l'aise. Pascal Paradis, même chose. Catherine Gentilcorps, même chose. Pascal Bérubé, valeur fiable. Fait que s'ils sont autant... Ce que je leur souhaite, c'est une bonne dose de repos à Paul Saint-Pierre Plamondon durant les fêtes et qu'il se positionne durant cette dernière année-là d'ici à l'élection comme un gars qui est premier ministrable, quelqu'un qui est capable d'être en hauteur, qui ne prendra pas chacune des attaques qui viendront vers lui comme une attaque personnelle, parce que plus il va avancer vers l'élection, plus il va être le gouvernement en attente, plus il va en avoir des attaques qui vont fuser de tous les bords, tous les côtés. Et donc, ça, et une capacité aussi à, t'sais, avec la hauteur, vient aussi être rassembleur. Il faut qu'il soit capable de commencer à rassembler le monde parce que si effectivement il veut faire un référendum dans un premier mandat, ben d'abord et avant tout, il faut qu'il se fasse élire. Pour se faire élire, il doit les gens doivent pouvoir l'imaginer dans le poste de premier ministre. Je suis pas sûr que c'est le cas présentement. Et si jamais il finit effectivement par le devenir et qu'il veut faire un référendum, il va avoir besoin de tous les votes qui lui sont favorables pour espérer se donner une chance dans ce référendum-là. Alors, plus de hauteur et plus rassembleur pour 2026 pour le PQ.
Oui, bien sinon, Jeff, moi, l'exemple qui venait en tête quand j'écoutais Lambert c'est ce qui s'est passé du côté des libéraux au fédéral. On était sûr qu'il n'allait pas repasser. Puis finalement, avec la longueur de la campagne, Donald Trump qui arrive, il suffit d'un événement.
T'as raison, on a un exemple avec les conservateurs qu'on pensait tous qu'ils allaient gagner les élections, qu'ils ne les ont pas gagnées.
Mais cet exemple-là, messieurs, dames, là, tout le monde le sort. Là, tout le monde veut trouver son Mark Carney. Là. Moi, je tiens à dire là, que dans l'histoire de la politique fédérale canadienne, et vous savez que j'étais avec Pierre Poilievre, cette semaine en entrevue, et je lui en ai parlé de ça à M. Poilievre, de comme « Hey, on s'entend-tu que vous avez été victime probablement de la séquence la moins chanceuse de toute l'histoire de la politique canadienne. Là, il était premier pendant des mois. Tout le monde parlait déjà de lui comme le futur premier ministre. Là, Trudeau s'en va. Espèce de sauveur incarné avec le profil parfait, Carney arrive. Trump rentre en poste. Il parle du 51e État. Il dit qu'il veut nous envahir. La panique prend. Les gens ne votent pratiquement exclusivement sur la question de qui va être la meilleure personne pour lui faire face. Et là, c'est Carney qui finit par rentrer. Cette séquence d'événements-là, il ne faut pas prétendre que ça peut réarriver à chaque année ou à chaque deux ans.
En effet.
De chercher le sauveur. Là.
Ah non,
je suis pas sûr qu'il y en a là, de sauveur.
Moi, je te parle d'un événement. Puis là, cette fois-ci, c'était l'élection de Trump. Fait que si, mettons, il se passe un événement, puis là, pour une raison X, on se dit, Caroline, le référendum, intérêt souverainiste et autres, ça passe pas. Puis qui continue à aller de l'avant, ça se peut qu'on voit un peu les intentions de sondage descendre. Mais
non, en effet,
dans n'importe quel parti, il y a tout le temps un revirement de situation au pire, au coin de la rue. Là.
Lambert, il nous reste 2-3 minutes. Qu'est-ce qu'on souhaite à QS? Depuis tantôt que j'y pense, puis je ne sais pas quoi leur souhaiter. Ils s'assument à gauche, sont heureux à gauche. On leur souhaite-tu juste de rester dans leur bonheur de licorne et de pouliche?
Ouais, je fais attention là, en disant ça. Je pense que c'est important d'avoir une formation politique.
T'as raison.
À gauche, au Québec, qui s'affirme, puis qui fait la promotion
de ces idées-là.
Oui, c'est ça. Un parti qui s'assume, c'est le mot que je cherchais. Un parti qui s'assume à gauche, je pense que c'est très bien. Puis on l'a vu à quel point Québec solidaire a eu un impact dans les dernières années en mettant de l'avant la crise du logement, en reconnaissant les droits des locataires. Puis le gouvernement aussi en est venu à reconnaître la crise du logement par la suite. Fait que c'est important d'avoir un parti comme ça. Le problème présentement, c'est que tu as l'impression qu'après l'ère Gabriel Nadeau-Dubois, Manon Massé, qui avait cette capacité-là non seulement à donner une crédibilité au parti, mais à aller chercher l'attention, eh bien là, on dirait que c'est même plus une question de les gens, ils pensent-tu telle affaire ou pas telle affaire de ce que Québec solidaire fait. C'est comme si les gens sont... C'est comme s'ils étaient devenus un petit peu insignifiants. Je ne sais pas si c'est trop fort comme mot, mais
en anglais,
le mot, ce serait « irrelevant ». Ça, c'est la pire affaire. Là. Tu préfères que les gens taillissent de tous les bords, tous les côtés, que les gens te trouvent insignifiant. Et ça va être ça leur défi, de trouver une façon pour eux, après le départ de Gabriel Nadeau-Dubois et de Marlon Massé, de continuer à faire parler d'eux. Et donc, ce que je leur souhaite pour 2026, eh bien, c'est de se trouver une étoile au sein de leur parti pour prendre la pôle des étoiles qu'ils vont quitter. Mm-hmm. J'ai en tête Guillaume Clich-Rivard. Et je leur souhaite surtout de garder leur statut de parti officiel, parce que présentement, si on regarde les intentions de vote, ils ne feraient élire que de 0 à 4 députés. Pour être un statut de parti officiel, il faut que tu aies 12 députés ou 20 % du vote. Présentement, ils sont à 8-9 % du vote. Alors, pour Québec solidaire 2026, une étoile. Moi, je pense qu'ils devraient miser tous leurs pions sur Guillaume Clich-Rivard. C'est clairement leur parlementaire le plus efficace. Et pour ce qui est de l'élection, ben, je leur souhaite de garder leur statut de parti officiel. Petit mot sur Éric Duhaime.
Ben oui, est-ce qu'on lui souhaite ou non, Maïté Blanchette-Vézina? Parce qu'en particulier, on s'est fait raconter en détail ce matin ce rendez-vous au Il Teatro.
Ben oui,
les pâtes qu'Éric Duhaime a mangées.
Le fait qu'il va présenter à sa famille.
Ben écoute, non. Moi, je leur souhaite pas Maïté Blanchette-Vézina. Je vais t'avouer, là, de la façon dont elle a quitté la CAQ, tu te dis, tu sais, tu l'embarques dans ta gang le jour où ça va vraiment mal aller à shop parce que ça va être la première à te jeter en dessous de l'autobus. Je comprends qu'il y a besoin de quelqu'un pour la faire entrer à l'Assemblée nationale. Si ça lui permet d'avoir de la visibilité d'ici là, tant mieux. Mais ce que je lui souhaite surtout, c'est de continuer à se positionner comme une option crédible à tous les autres partis politiques. Mm-hmm. Dans une situation où, présentement, là, on a vraiment l'impression que tu as beaucoup d'électeurs au Québec qui sont orphelins politiques, qui regardent la CAQ, qui disent « Oh boy, moi, François Legault, oublie ça », qui regardent le Parti libéral, qui disent « Oublie ça, les fling-flang, les brownies, oublie ça », qui regardent le Parti québécois, qui disent « Référendum, moi, oublie ça ». Mais là, c'est une occasion en or pour Éric Duhaime de dire « Écoutez, si ces trois partis-là ne font pas le job, nous, on est là ». On a une plateforme qui est crédible, qui est fiable. On est revenu, on est passé à autre chose sur les histoires de pandémie, puis de vaccination, puis d'affaires de trans ou de personnes dans les bibliothèques, là, j'ai oublié le nom, là, mais c'est tous ces enjeux de genre. Les drag queens dans les bibliothèques, c'est beau. Là. Il y en est visiblement revenu, c'est très bien. Je lui souhaite, considérant qu'il a quand même été cherché 10 % en 2022 du vote, mm-hmm. c'est un déficit démocratique quand même important, de faire finalement son entrée à l'Assemblée nationale, parce que présentement, il y a des gens au Québec qui vont voter pour lui et qui ne sont pas représentés dans l'enceinte.
Excellent point. Lambert Drainville, je te souhaite de joyeuses fêtes. Je te souhaite un excellent début d'année 2026. Tu sais à quel point on apprécie faire de la radio avec toi et qu'on va continuer à en faire en 2026.
Oui, puis si je peux dire un petit mot avant de vous laisser. Moi, j'ai commencé mes affaires au mois de mars. Personne ne savait j'étais qui. J'ai commencé à faire mes petites vidéos sur mes médias sociaux. Et Leclerc Communication et Boulevard 102.1 a été la première radio à me donner un poste récurrent où je reviens à chaque semaine. Alors, je voulais vous remercier pour la confiance de toute l'équipe envers moi. Je trouve qu'on a développé une belle complicité. Je trouve que vous avez des beaux collaborateurs sur vos différentes émissions. Évidemment que j'ai un parti pris pour mon cher ami Farnel Morissette, mais je pense que le Boulevard 102.1 et les radios de Leclerc Communication plus généralement ont un fort potentiel de croissance au courant des prochaines années et j'espère pouvoir continuer d'en faire partie.
Bien, en tout cas, c'est sûr que tu es signé pour l'année 2026 à l'émission d'Angeance. Qu'est-ce que tu en penses, Pascal Séveille?
Absolument.
On est d'accord. Quand on a le saut d'approbation, Pascal Séveille, on passe à l'action.
Je vous aime, Pascal. Hey, nous autres aussi. JF, je t'aime.
Joyeuse fête, Lambert. Salut, joyeuse fête. C'était Lambert Drainville, excellent vulgarisateur d'actualité, qui est avec nous deux fois par semaine, les mercredis et vendredis. Pascal, on veut en savoir plus sur cette entente entre les médecins. Eh bien, Pascal Renaud de la Fédération des médecins omnipraticiens, c'est le représentant ici pour la région de la Capitale-Nationale, va être avec nous en studio après cette courte pause.
Extrêmement hâte de l'entendre. C'est des enjeux qui concernent tout le monde. Vous êtes dans votre voiture, vous êtes au travail, mm-hmm. Vous, là, qui écoutez, là, ça vous concerne, c'est certain.
Exactement. Donc, restez avec nous. Il s'en vient immédiatement après cette courte pause à l'émission d'Angers sur Boulevard 101.